France Inter, le 6-9 de l'été.
Mes chers camarades, bien le bonjour.
Et bienvenue ici au musée des Beaux-Arts de Valenciennes.
À quelques kilomètres du célèbre château de Chambord, au cœur du Loir-et-Cher, dans la petite ville de Ratepont, dans le département de l'Eure. Un empereur qui s'étouffe en bouffant une poire, ça donne envie de se la fendre.
Livrez-vous, celui qui se livre à l'exercice ce matin du portrait via ses lectures est youtubeur. Il compte près d'un million d'abonnés à sa chaîne. Il s'appelle Nota Bene et il se présente comme un vidéaste qui vulgarise l'histoire. C'est chez lui, en Touraine, qu'il ouvre les portes sur sa bibliothèque. Nota Bene, on est chez vous. La bibliothèque, elle tient quelle place chez vous ?
Elle tient une place assez importante parce que déjà elle est au milieu de mon salon, donc on ne peut pas la louper. Puis c'est quand même le décor de mon émission, donc ça prend quand même une place assez centrale pour moi. Puis c'est un peu le reflet de ce que j'aime moi dans la vie. Dans cette bibliothèque, il y a aussi des livres de ma femme, mais on retrouve quand même de l'histoire, bien évidemment, et puis de la science-fiction, un peu d'horreur fantasy, voilà.
C'est important pour vous dans votre émission de placer votre vidéo face à une bibliothèque ?
Alors certains esprits moqueurs diront que la bibliothèque c'est un peu le décor du pauvre quand on commence les vidéos. Mais moi j'aime bien parce que je trouve que les livres c'est des beaux objets.
Il n'y a pas que de l'histoire du coup ?
Non, il n'y a pas que de l'histoire. Non, parce que l'histoire c'est très bien, mais je pense qu'il faut aussi pouvoir lire autre chose. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Comme je disais, il y a science-fiction et fantasy. On a des BD aussi parce que j'aime bien la BD. Je trouve ça chouette. Donc on a L'Arabe du futur de Riyad Satouf qui est très bien. On a la collection 14-18 qui est incroyable aussi, qui a été une. Je crois que c'était une des premières fois où j'ai pleuré devant une BD. Et moi qui pensais que après Tardi c'était compliqué d'aborder la 14-18 en BD, la preuve, il y a encore de la place quoi, parce que c'est vraiment bien.
Vous me le montrez ?
Ouais, 14-18, c'est celui-là. Hop. Donc il y a une dizaine de tomes. Et donc on suit l'aventure d'un petit village qui apprend que ça y est, on va partir, c'est la mobilisation, donc au départ tout le monde est très heureux, et en fait on pose vraiment les bases de relations très très humaines qui vont se développer ensuite quand ils vont partir à la guerre.
Pierre, qu'est-ce que tu fais ?
Bah comme tu vois, je brûle le vieux souvenir. À quoi bon laisser un témoignage de ces atrocités ?
C'est assez dramatique.
Vous avez souvenir du livre ou de votre intérêt à un moment donné pour le livre ?
C'est venu vers 10-11 ans avec beaucoup de science-fiction, des univers dérivés de Star Wars notamment, et puis rapidement de la SF un peu plus costaud et traditionnel, on va dire, avec du Asimov par exemple, Cycle des robots, Fondation.
C'est quoi l'histoire de Fondation ?
Alors, Fondation, en gros, c'est l'histoire d'un type qui arrive à développer une science qui peut prédire l'avenir. Voilà, en gros. Et je trouve ça à la fois froid et coloré, en fait, c'est très, très étrange.
Froid et coloré ?
Ouais, froid, il peut y avoir l'ambiance un peu parfois froide de la SF avec ses vaisseaux, ce métal, ses planètes en ébullition. Et puis, à côté, on voyage beaucoup, on rencontre plein de gens, des peuples différents, des planètes différentes. Il y a cette idée de voyage que moi j'aime beaucoup.
Ça a un sens la science-fiction quand on aime ça ?
Oui, la science-fiction c'est un prétexte pour moi au questionnement de soi, au questionnement de nous, de notre société. C'est le prétexte formidable pour aborder des concepts philosophiques, plein de choses finalement. On peut parler de... voilà, le meilleur des mondes. D'Aldous Huxley, et c'est une critique de la société de consommation et puis de l'industrialisation à outrance, et en fait il y a plein de thématiques qui sont abordées dans ce livre qui sont incroyables. C'est le genre de bouquin, quand on le finit, on passe une semaine à se dire oui, mais et si ça arrivait quoi.
Vous avez une idée d'un passage ?
Il faudrait que je retrouve le... Ça commence par la description d'un bâtiment. Un bâtiment gris et trapu de 34 étages seulement. Au-dessus de l'entrée principale, les mots « Centre d'incubation et de conditionnement de Londres centrale ». Et dans un écusson, la devise de l'État mondial « Communauté, identité, stabilité.
Le livre qui, pour vous, est au-dessus de tout, c'est-à-dire celui qui vous accompagne tout le temps.
Il y a un livre que j'emmène partout, que j'aime bien, c'est Les historiens de garde, qui a été écrit notamment par William Blanc. C'est un livre que j'aime bien parce qu'en fait, il parle vraiment du recul critique qu'on doit avoir sur la consommation de l'histoire. C'est important de faire comprendre aux gens que l'histoire, elle est pas neutre du tout. Et je pense que quand on est un peu plus jeune, on se leurre vachement là-dessus. En se disant, ouais, mais l'histoire, c'est des faits. Mais non, il y a des interprétations par-dessus ces faits-là. Et le simple fait de choisir un sujet et pas un autre, c'est déjà un choix éditorial et donc un peu politique aussi.
Le livre qui vous est tombé des mains, celui que vous n'avez jamais pu lire en entier, et là, il baisse les yeux, il se tourne vers les classiques.
Ouais, un peu. Non, alors, clairement, ce qui se rapproche de trucs genre Kafka, c'est pas pour moi, quoi. Après, au niveau du style, moi, j'aime un style plutôt simple, quoi. Quand il y a trop de descriptions, ça a tendance à me gonfler. Par exemple, Tolkien, j'adore. Mais alors, le passage avec les hobbits dans le marais, bon, ça, c'est le genre de truc, en général, je saute la partie. Je passe à celle d'après, où je retrouve Aragorn et Legolas qui vont aller se bastonner, quoi.
On est dans Le Seigneur des Anneaux. Hein.
Voilà, Le Seigneur des Anneaux, hein. Ouais, clairement.
La lecture, aujourd'hui, elle prend quelle place dans votre vie ? Elle représente quoi pour vous, personnellement ?
C'est beaucoup d'enrichissement. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai lancé l'émission, si je l'ai lancé sur la thématique de l'histoire, c'était pas anodin, c'est-à-dire que j'avais envie d'apprendre, quoi. Je viens d'une famille à la base qui est plutôt ouvrière, et donc c'est pas des familles où on lisait beaucoup. Je dirais que vraiment j'ai commencé à beaucoup plus lire quand j'avais 18-19 ans, en fait. C'est assez tardif. Pour moi, c'est la période où j'ai commencé à rentrer dans la vie active. Globalement, j'avais pas une activité intellectuelle qui était foisonnante. Et à partir du moment où j'ai commencé à fréquenter des gens qui, eux, avaient une vie intellectuelle extrêmement riche, je me sentais toujours con, en fait. Parce que je me disais, mais si quelqu'un me pose une question ou me lance dans la conversation, je vais être complètement paumé, quoi. Je saurais pas quoi dire, je suis pas de taille, entre guillemets. Il y avait un espèce de complexe d'infériorité assez intense. Mais finalement, je l'ai un peu toujours, ce complexe-là. Comme je disais, je suis pas historien, donc il y a toujours un peu syndrome de l'imposteur malgré tout. Mais voilà, il faut pouvoir être un peu curieux, s'ouvrir, lire, rencontrer les gens.
Quel regard vous portez sur le lecteur que vous êtes devenu ?
J'aimerais lire plus et plus varié peut-être. Chacun va à son rythme et on a toujours quelque chose à découvrir. Il y a toujours des étapes dans la vie qui font qu'à un moment donné, on va s'intéresser à un truc. Et clairement, les goûts évoluent et c'est normal parce qu'on se construit aussi avec le temps.